Bien qu'on a vu la semaine dernière, en gros, le discours de la méthode, hein, la méthode de réflexion mise au point par Guicciardini et par ses interlocuteurs, et donc qui fait parler ses interlocuteurs, et donc l'ensemble des points qu'il faut éclaircir pour avancer. Donc, vous vous rappelez, la question c'est, après avoir défini le désir des hommes, essayer de faire quelque chose qui est l'analyse, hein, le discorso, la considerazione delle cose, hein, et partir des choses, partir de la natura delle cose in verità, ne pas se laisser abuser par la douceur des mots, et en particulier, donc pour considérer la question du gouvernement, considérer les effets du gouvernement. Alors, toute la première partie de l'ouvrage, hein, le livre 1 du dialogue, est fondée sur cette méthodologie. Lorsque la deuxième journée du dialogue commence, une intervention va permettre d'opérer un tournant décisif dans la discussion. Ce tournant, il est introduit par une intervention de Piero Guicciardini, guarda caso, hein, c'est papa qui va introduire la nouveauté. Et cette intervention, elle s'énonce de la façon suivante, hein. Mi pare che ora sia meglio seguitare il cammino cominciato che perdere tempo senza utilità. Massime che io credo che sia detto tutto quello che si può dire di bene e di male dell'uno governo dell'altro, o al manco quello che importa più. E per quanto compreso, Bernardo confessa che nel governo dei Medici erano molti difetti, ed ha considerato che molti ne saranno in questo altro, e credo che voi non ne neghiate una buona parte. E così credo non si disputi quale di questi due governi sia migliore, ma quale sia il manco cattivo. Resta dunque ricercare, e così fu detto nel principio, quale sarebbe buono governo per questa città. E il domanda a Bernardo, hein, de mettere mano à cette nouvelle question. Mettere mano. Vous voyez bien que cette question provoque un changement de perspective dans le raisonnement jusque-là tenu par Bernardo del Nero, et lui permet d'ailleurs de répondre à une objection qui restait en suspens, qui était aussi une objection de celui qui joue le rôle un peu comme ça, du théorisateur du débat, hein. Il n'intervient pas dans le débat, mais il l'oriente par des questions, des remarques, etc. C'est Piero Guicciardini, hein, qui joue ce rôle-là. Il avait énoncé, ce Piero Guicciardini, dans la première journée de discussion, qu'il y avait quand même une objection à la démarche de Bernardo del Nero, que cette objection, elle s'énonçait comme ça, s'énonçait sur la difficulté même en admettant le fondement de la réflexion de Bernard, à savoir juger sur les effets. Et il y a une difficulté. Pourquoi? Perché? Hein? Perché non sarà altro che aver a fare giudizio tra una cosa certa e una incerta. In te si potranno facilmente pigliare molte fallacie. La cosa certa, c'est que le déroulement historique Le gouvernement des Médicis, on peut l'utiliser, on peut le concevoir comme un objet d'histoire, on sait ce qu'il a produit réellement. Le gouvernement, le governo Stato Popolare, le governo popolare, mis en place avec la mise en place du Grand Conseil en décembre 1494, eh bien, ce n'est pas encore un objet d'histoire fini. Hein, c'est encore une chose incertaine. Cosa certa d'un côté, incerta de l'autre. Et Bernardo del Nero, dans ce début de la deuxième journée du dialogue, hein, va expliquer pourquoi la veille il a critiqué la dolcezza dei nomi, pourquoi il a mis en évidence les défauts, hein, du gouvernement populaire. I difetti. Erano molti difetti. Voilà. Et il explique en effet que io ho ragionato di sopra, donc la veille, dans la première partie, le premier livre du dialogue, io ho ragionato di sopra lungamente dei difetti che io temo in questo vostro governo. Ne l'ho fatto tanto per dirne male, detestarlo, quanto per mostrare che, ancora che la libertà sia gratissima alla città, che non basta aver introdotto uno Stato libero, perché è sotto quello possono nascere molti errori e disordini, ma bisogna sia ordinato di sorte che si sentino e frutti della libertà. Altrimenti, e il nome sarà buono e piacevole, ma gli effetti molto spesso simili à quelli del tiranno. Donc, il définit là à la fois le sens de sa démarche, donc le fait qu'il n'y a pas de contradiction entre avoir mis en évidence les défauts possibles du gouvernement populaire, le fait que, et ça c'est sa méthode qu'il continue à appliquer, il ne suffit pas d'employer le mot, le nom, il nome, hein, le doux nom de liberté, mais qu'il faut trouver les méthodologies, les propositions précises, etc., qui permettent de sentire e frutti della libertà. Hein? Et c'est donc, vous voyez bien que dès lors, une lecture qui insisterait sur la contradiction entre la première partie ou tous ses défauts, tous les défauts possibles du gouvernement populaire sont mis en évidence. Hein. il répond par anticipation à une lecture de ce type. Il dit, voilà, je vous ai mis en garde contre le fait qu'il ne suffit pas d'utiliser les noms. Il faut ordinare. Donc, il faut ordinare de façon... Donc, mettre en place gli ordini, hein, les fonctionnements, les mesures, les institutions, les procédures qui permettent de faire fonctionner ces institutions qu'on met en place. C'est l'ensemble de ça qu'il y a sous le terme ordinare, bisogna sia ordinato, de façon à ce que, au-delà du nom de liberté, eh bien, il y ait un effet de la liberté. Cet effet de la liberté, ça soit ses fruits de la liberté. Voilà. Alors, on avait donc dans le premier livre des grandes lignes d'un discours de la méthode politique. Dès lors, à la lumière de l'intervention de Piero Guicciardini, hein, le second livre change le statut du texte. Et le texte devient, le second livre, devient une sorte d'énonciation des conditions de possibilité, hein, d'une réflexion sur une forme de gouvernement qui, étant donné la condizione dei tempi telle qu'elle est, étant donné gli umori della città e dei cittadini telles qu'elles sont possa essere tutto buono o al manco nelle cose più importanti. Allora, première remarque hein, sur le sens profond de ce raisonnement sur le gouvernement. La première remarque, c'est on pourrait penser que dans la mesure où Francesco Guicciardini est issu d'une des grandes familles de l'oligarchie florentine, le programme qu'il fixe la réflexion politique soit complètement liée à son appartenance de classe, hein, à ses liens avec l'oligarchie. Évidemment, on a des éléments, y compris dans sa réflexion politique habituelle, qui montrent qu'en effet, il est parmi ces gens qui pensent en gros, et là c'est une très grande différence avec Machiavel, hein, qui pensent qu'on ne peut pas s'appuyer sur le popolo. Hein. En entendant bien, une nouvelle fois, il faut l'avoir en tête, que quand un Florentin du XVIe siècle dit il popolo, il pense aux cittadini, hein. Il pense aux cittadini, il pense pas aux ciompi, il pense pas aux travailleurs manuels qui ne possèdent pas au moins une petite boutique, mais il pense à cet ensemble de gens qui ont justement une représentation dans la cité par le moyen des arti, hein, maggiori et minori, qui ont pignon sur rue, même si le pignon est petit, qui sont ceux qui sont représentés dans le Consiglio Grande. Hein. Des gens donc qui, depuis quelques générations, ont participé à la vie politique de la cité. C'est ça le peuple. Et même, vous savez que l'autre terme pour dire ça, pour dire la masse des citoyens, c'est l'universale. Hein, l'universale, le peuple. Et quand Guicciardini, et là sur la durée, hein, parce qu'on trouve des formulations dans la rédaction B des Ricordi, dans la rédaction C des Ricordi, on peut penser qu'il pense ça depuis qu'il est tout petit, parce que son papa lui a dit tous les jours, hein, qui dit c'est uno popolo, dit c'est veramente uno animale pazzo, pieno di mille errori, di mille confusioni. Senza gusto, senza diletto, senza stabilità. On ne peut pas s'appuyer sur le peuple. Hein? C'est-à-dire qu'il dit exactement le contraire de ce que Machiavel dit quand il dit qu'on ne vienne pas me sortir ce proverbe rabâché qui fonda in sul popolo, fonda in sul fango. Il dit exactement ça. Hein? Machiavel dit voilà, il faut s'appuyer sur le peuple. Sur l'universal del popolo. Hein? Rappelez-vous, Machiavel, tout en disant ça, quand il rapporte le point de vue de la grande messe des citoyens florentins sur la plèbe, il dit « il puzzo de la plèbe hein? ». On ne peut pas supporter il puzzo de la plèbe. Donc, mais Machiavel pense que c'est l'universal des cittadini, c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer pour diriger la République de Florence, ou pour faire un principato, s'il y avait un prince florentin, il faudrait de toute façon qu'il fonde sa domination sur une alliance avec l'universale del popolo. Hein? Et, bon, alors, cela dit, cette méfiance de Guicciardini envers le peuple, donc, je vous dis, sans même parler, hein, du popolino, de la plèbe, hein, sans même parler de ça. Donc, il y a une méfiance de Guicciardini envers le peuple, il y a une certitude qui est qu'on ne peut pas confier au popolo, hein, les affaires importantes, ne l'empêche pas, lui, représentant de ce point de vue de l'oligarchie florentine, ne l'empêche pas de raisonner en admettant et en mettant au point de départ de sa réflexion sur le governo fiorentino l'existence, la nécessité et l'utilité du Grand Conseil, précisément parce que il popolo, l'universale dei cittadini, a goûté le Consiglio Grande, et on pourrait dire, hein, en poursuivant la métaphore, que non seulement il a goûté ce Consiglio Grande, mais qu'il y a pris goût, et que c'est une des conditions des temps. C'est un des éléments de l'analyse degli umori della città e dei cittadini, et qu'il faut en tenir compte. Et l'évidence de ça, qu'il faut toujours avoir en tête, parce que ça remet en question une lecture purement de classe de la position de Guicciardini, hein. C'est-à-dire ça fonde la démarche pragmatique de Guicciardini, hein. C'est que malgré ça, eh bien, quand il donne des définitions du Grand Conseil, il est cohérent, et il est cohérent sur la longue durée. Parce que il dit ça, il va donner pratiquement les mêmes définitions du Consiglio Grande de 1512 à sa mort. En tout cas, à 1537, 1538, quand il écrit le livre 2 de la Storia d'Italia, où il va reprendre les mêmes formulations pour définir le Grand Conseil. Donc il s'agit bien, pour lui, de penser un rôle, hein, le rôle de cette instance comme instance de la souveraineté, hein, le Grand Conseil comme en gros l'équivalent du prince dans la cité. Alors, Discorso di Logroño, 1512. E però, per fondamento della libertà, bisogna il vivere popolare del quale è spirito e base il Consiglio Grande, che abbia a distribuire i magistrati e dignità della città. 1512. Dans le dialogo del reggimento di Firenze, tra 1521 e 1525, è il fondamento principale, adunque, è l'anima del governo popolare, è come avete fatto voi, è il Consiglio Grande, cioè uno consiglio universale di tutti quelli che, secondo gli ordini nostri, sono abili a avere gli uffici della città. E un po' più loin, tutte le leggi di qualunque sorte hanno a avere la perfezione sua finale in questo Consiglio Grande, il quale, in effetto, ha a tenere nella città il luogo e l'autorità del principe. È veramente una definizione très claire de cette instance, hein, de souveraineté. De l'expression de la souveraineté de tous ceux qui sont abili a avere gli uffici della città. Dernier texte qu'il écrit, hein, les dernières années avant sa mort en 1540, la Storia d'Italia, quand il reprend l'histoire de Florence, qui reprend le moment 1494, eh bien, fu giudicato che per allora si costituisse il Consiglio Grande come fondamento della nuova libertà, hein, fondement de la liberté. Hein, vous voyez, donc là, une lecture permanente, quoi, une lecture qui reste identique sur 30 ans. Hein, sur 30 ans. Et vous remarquez dans ce passage de la Storia d'Italia, livre 2, chapitre 2, hein, que il remet en place l'hypothèse suivant laquelle ça n'était pas joué d'avance que ça ne marche pas. Ça n'était pas joué d'avance que ça ne marche pas. Hein. Sul quali fondamenti, sul quali fondamenti si sarebbe forse costituito un governo ben regolato e stabile se si fossino nel tempo medesimo introdotti tutti quegli ordini che caddono insino allora in considerazione degli uomini prudenti. De ordini, hein, on retrouve la même terminologie, bisogna sia ordinato in sorte che si sentino ai frutti della libertà, ces ordini, ce sont ceux qui vont être explicités dans la deuxième journée du dialogue de régime. Alors, donc là, le Grand Conseil doit jouer un rôle. Il doit avoir la place et l'autorité du prince dans la cité. Il est le fondement du gouvernement populaire, hein, l'âme du gouvernement populaire. Il est le garant même de la liberté de la cité. Il est là pour empêcher que cette liberté puisse être mise en cause, pour interdire que quiconque puisse altérer la liberté, puisse usurper le pouvoir. Farsi grande, hein, dans la cité. Toutefois, et là, on reconnaît l'autre âme de Francesco Guicciardini, hein, cette idée que cette instance-là, ce Consiglio Grande, s'il est nécessaire pour affirmer, hein, un lieu qui soit le lieu qui garantit la permanence de la liberté, ce n'est pas cette instance-là qui sera l'instance des décisions concrètes, des décisions de gouvernement. Hein. Et là, là aussi, on trouve une deuxième idée importante qu'il faut garder en tête, qui là aussi reste... Hein, qu'on retrouve dans des textes écrits à des moments différents, c'est l'idée que la délibération sur les choses, les décisions importantes, les décisions de poids ne peuvent être prises que par des gens qui sont capables de les prendre. Hein. Ah, cette idée, c'est l'idée du poids. Il pondo del governo. Et là aussi, vous trouvez des formulations semblables dans le discorso di Logroño et dans le dialogo del Reggimento di Firenze. Discorso di Logroño, tutto il pondo del governo si riduce alla fine in sulle spalle di molti pochi. Dialogo del Reggimento. Troverassi che sempre, in ogni vivere ordinato, il pondo delle città si è posato in sulle spalle di questi tali, e quali in ogni età sono stati pochi, né mai le cose grandi e gloriose si sono mosse e condotte per altre mani. Allora, Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Eh bien, ces gens-là sont... c'est là que, de nouveau, malgré cette thèse là sur il pondo del governo si riduce sulle spalle di molti pochi, qui tend à faire penser qu'il s'agit, comme d'hab, des gens des grandes familles florentines. C'est là que quelque chose va jouer dans son texte, qui précisément se décale par rapport à la position, disons, naturelle, au sens où là, naturelle signifie que l'idéologie historique d'un groupe s'est incarnée, quoi, hein, de la classe dominante florentine. L'idée immédiate de quelqu'un d'une des grandes familles florentines, c'est qu'en gros, il n'y a que nous qui, hein, c'est ça qu'ils pensent, il n'y a que nous pour diriger la cité. C'est pas, bon, une fois de plus, on ne parle même pas du Popolino, de Ciampi, puis de Storacaila, ils n'ont même pas de place là-dedans, mais même, quand même. Faut pas. Et là, vous savez bien que chez Guicciardini, c'est un peu différent et que le personnage emblématique du Dialogo del Regimento, Bernardo del Nero, est justement emblématique de la nécessité de constituer un groupe de personnes aptes à diriger, mais dont l'aptitude ne soit pas désignée uniquement par leur appartenance à certaines familles. Hein? Donc ça, c'est un point évident. Hein? Non essendo io cinto di parenti come siate tutti voi, il leur dit. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être cinto di parenti et être capable de porter sur ses épaules le poids du gouvernement. Hein? C'est ça la thèse de Guicciardini. Et alors, vous savez que il va définir ça. Là aussi, il y croit sur une longue période et on retrouve des formulations semblables à la fois dans le Discorso di Logroño et dans le Dialogo. Il faut qu'on mette en place des modalités qui permettent à des gens qui ne sont pas cinti di parenti, de faire leurs preuves, de gravir les échelons des charges, hein, gravir, pour le terme latin, enfin, cursus honorum, hein, de faire leurs preuves, de manier les affaires, de montrer en maniant les affaires qu'ils possèdent ingegno giudicio discrezione, hein, terme que nous connaissons par l'approche des ricordi que nous avons mené avec Paolo Carta récemment. Ouais. Et, donc ce qu'il dit, c'est en gros ce qui peut émerger, c'est des hommes de métier, des hommes dont le métier soit le gouvernement. Et là, vous voyez que là, on retrouve des formulations qui nous font penser à des choses que Machiavel lui-même dit. L'arte, dans ce sens-là, l'arte dello Stato, la corporation de l'État, la techné de l'État, l'arte, dans ce sens-là. Hein, voilà, pas l'art au sens des beaux-arts, mais cet art au sens du métier. Notez bien que c'est ce vocabulaire-là qu'il emploie lorsque il définit le rôle de celui qui va être le gonfalonier. Et quand il essaye de définir la fonction à la fonction du gonfalonier, eh bien, un patron, hein, uno padrone. Et puis, dans la phrase où il emploie ce terme, un gonfalonier comme patron, il voit bien que ce n'est pas le bon terme. Hein. C'est besoin uno padrone. Non dico che sia signore e che domini, ma che per stare fermo abbia a avere alle cose della città quella cura e pensiero che hanno i padroni alle cose proprie. Hein? Donc, c'est un rapport aux choses de la cité, au fonctionnement du gouvernement, qui soit identique à celui de la bottega. Hein? À celui... Et alors, ça lui fait penser à un autre terme qui va encore plus dans le sens de l'homme de métier, mieux encore que le patron, per dire forse meglio, sia come uno fattore amorevole e fedele. Quelqu'un auquel on puisse confier les causes de la città. Quelqu'un on puisse confier cette bottega qu'est la città. Qui sache le métier pour faire fructifier la bottega. Uno fattore amorevole e fedele. Alors, un des points décisifs donc, qui va revenir, je vous dis, qui est présent aussi bien dans le discorso di Logroño que dans le dialogo, c'est l'idée que il faudrait permettre de mettre en place des façons de faire qui permettent de faire émerger gli uomini valenti, hein? Non pas gli uomini da bene, hein? Qui sont les, hein? Mais gli uomini valenti. On pourrait dire que il y a un passage chez lui de la tradition qui est encore très présente quand il écrit les Storie Fiorentine en 1508-1509, la tradition des oligarques florentins qui consiste à dire il faut que ce soit gli uomini da bene, gli uomini di qualità qui dirigent la cité, a une idée qu'il faut tester la qualité degli uomini et qu'il faut donner les responsabilités aux uomini valenti et pas s'appuyer uniquement sur l'origine sociale. Alors, une des mesures, c'est donc la possibilité d'intervenir à la tribune, de discuter, hein. Et il dit « questo modo di conciliare » eh bien aurait de nombreux bons effets et entre autres « ne seguirebbe uno altro buono effetto che dove hanno poca occasione i cittadini di mostrare pubblicamente quello che vagliano e sono tenuti molte volte savi quelli che parlano poco, questo mostrarsi ogni dì e disputare sopra le consulte e sopra le provisioni darebbe facoltà a quelli che vagliono, gli uomini valenti, gli uomini che vagliono, di farsi conoscere e li distinguerebbe dagli altri come l'oro dal piombo. Et là, il explicite clairement, hein, que cette pourquoi il entend mettre en place, enfin, il voudrait que soit mis en place de telles formes qui permettent de distinguer les hommes sur ce qu'ils disent et pas sur le fait que Hein, le sage, on considère comme sage ceux qui disent rien. Non, il faut dire, il faut faire des propositions, il faut délibérer, il faut discuter, il faut peser les choses. Hein. Et la raison est très clairement explicitée dans une des interventions de Bernardo del Nero. Il explicite que, in fatto, il vivere di questa città è stato insino a oggi di sorte che chi non è nato con la reputazione dei padri o della casa non ha avuto facoltà facile di farsi conoscere, donde o la virtù di qualcuno non è mai venuta a luce o è stata addormentata più lungamente che non si conveniva. E questo risulta danno grande alla città e perché perde l'occasione di valersi degli strumenti di che si potrebbe valere e perché, non conoscendo gli uomini, adopera molte volte di quelli che non riescono atti e tutto a danno della bottega. Ma con questi paragoni verrà su facilmente chi sarà da venire. Donc, hein, mettre en place i paragoni, les pierres de touche de la valeur des hommes. Les pierres de touche, c'est être capable d'analyser, de défendre un point de vue et de le défendre à partir d'une analyse de la situation. Hein? C'est ça, paragone. Et vous voyez l'emploi hein, du terme « a danno della bottega » qui renforce, hein, évidemment, fait l'écho avec le passage sur le gonfaloniere, « fattore amorevole e fedele ». Cette bottega, jusqu'à maintenant, elle a travaillé en utilisant uniquement chi è nato con la reputazione dei padri o della casa. Il faut en finir avec ce fonctionnement-là. Hein? Vous voyez, une logique de métier. Hein? Une logique de métier et de... d'exercices, de procédures qui permettent de faire émerger ces gens hein, qui ont la valeur qui va leur permettre d'être parmi ceux qui ont sur les épaules il pondo del governo, il pondo della città. Alors, c'est un point sur lequel il insiste. Hein. La reputazione verrebbe facilmente un ognuno che fosse virtuoso, non fondata, come molte volte oggi, solo in sulla nobiltà della casa e in sul mantello del padre e dei passati, ma in sul vedersi chiare le opere buone e virtù. On avait déjà des expressions de ce type dans le dialogue. On a aussi, je veux dire, la reputazione non fondata molte volte oggi solo in sulla nobiltà della casa, in sul mantello del padre, c'est le discorso di Logroño, et dans le dialogue, outre l'intervention de Bernardo que je viens de vous lire, hein, des expressions comme celle-ci, « E valenti uomini verranno con questo mezzo facilmente reputazione », non ci può in effetto essere valido più bello a distinguere le valute degli uomini e a far conoscere le monete. Hein, avec là aussi la poursuite hein, sur cette quinzaine d'années là, de la valeur des gens. Hein, gli uomini valenti, l'oro, il piombo, le monete, si elles sont des vraies ou des fausses. Hein, ouais. Voilà. Alors. Donc, à partir de là, à partir de ces principes, là, hein, donc, cette méthode du débat public qui va permettre la formation d'un groupe de professionnels des affaires de l'État. Et donc, ce qui est derrière, c'est l'idée que le mérite s'acquiert, se vérifie, hein, et la seule naissance ne confère pas le mérite. Hein, ceux qui doivent porter le fardeau, le poids de la cité du gouvernement doivent avoir ingegno, giudicio, discrezione. Hein? Et c'est l'ordinamento de la cité, la façon dont elle est ordinata, gli ordini qui fonctionnent, qui doivent permettre de faire leurs preuves et d'acquérir l'expérience nécessaire. Alors, sur la base de ces principes-là, se met en place une structure de possible de gouvernement, hein, avec donc trois grands fondements, hein, du fonctionnement général, le Grand Conseil, le Gonfalonier, sans doute la réflexion amène à penser que c'est mieux qu'il soit à vie, hein, plutôt que sur une période de temps déterminée. Et puis, quelque chose qui est donc un Sénat, un conseil permanent qui permette c'est ça les trois fondements. Vous voyez bien que la question de la signorie, il y a une mise, sinon une suppression, du moins une sorte de minorisation du rôle de la signorie, une critique de la puissance excessive de la signorie. Hein, donc si on la garde, quand même, on lui enlève une bonne partie de ses fonctions. Et puis il y a le Sénat. Hein, et puis il y a le Sénat. Alors le Sénat, vraiment une instance importante, ça sera l'instance où précisément les procédures qui permettront l'émergence de ce groupe des professionnels de la politique, hein, va jouer un rôle important. Vous savez qu'il le définit en liaison avec le Consiglio dei Pregadi de Venise, hein. Il pense qu'il doit être formé de membres nommés à vie, qu'il pense que c'est en son sein que seront formés les gouvernants et notamment les 10 de la guerre, que c'est là que s'élaboreront les mesures d'importance qui ensuite iront pour être entérinées au Grand Conseil. Hein? C'est le Sénat qui nommera les titulaires des principales charges. C'est lui qui sera l'instance d'appel pour les décisions de justice et qui décidera de la levée des impôts. Voilà. Mais délibérazione et discussione, c'est là la fonction du Sénat. Alors, le Sénat, pour Francesco Guicciardini, constitue un système de défense contre les deux dangers qui menacent le gouvernement populaire. Hein, deux défauts qui avaient été mis en évidence dans la première partie, dans la première journée de discussion. Hein, ces deux risques, c'était qu'on donne le poids des affaires à traiter à des gens qui n'en sont pas capables, à des gens qui ne sont pas compétents, et d'autre part, qu'on laisse, du coup, hein, un pouvoir excessif aux gonfaloniers. Alors, vous voyez bien que là, Il y a un dernier point qui est sur lequel il faut dire quelques mots, c'est que dans ce Sénat tel qu'il le conçoit, il y aura cette mise en place du débat contradictoire qui va permettre l'émergence de ce groupe de professionnels, mais qui aura là, en même temps, et c'est lié à ça, il y aura plat un choix qui sera fait par quartier. Alors vous savez bien que le choix par quartier dans la Signorie, en particulier jusque-là, c'est la possibilité pour les arts mineurs, pour les gens qui vanno per la minore, donc ils font partie d'un des arts mineurs, d'accéder à au poste de responsabilité et y accédant de permettre à leur famille d'être considérée comme une famille de citoyens florentins. Hein, vous voyez bien qu'il y a un double mouvement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'insistance très grande sur le fait que, attention, ne croyez pas que parce que vous êtes issu des grandes familles, vous avez les capacités pour, ça suffit à estimer que vous avez les capacités pour diriger. Donc il faut permettre à d'autres qui non sono cinti d'apparenti, qui non sono sotto il mantello del padre et de la famiglia, d'accéder à des vraies responsabilités, de faire partie de ce groupe des professionnels de la politique, mais en même temps, comme ça, presque subrepticement, enfin, il supprime une des procédures de transformation permanente du groupe des cittadini par, justement, ce choix par quartier. Et vous savez que quand on élit la signorie, il y en a deux par quartier, donc ça fait 4 fois 2, 8, mais que sur, et ça change à chaque fois, il y a un des quartiers qui envoie deux représentants des arts mineurs, les trois autres envoyant des représentants des arts majeurs. Donc il y a ce phénomène-là qui est au cœur de la représentation des quartiers qui, en gros, passe à l'as dans la pensée de Francesco Ricciardini. Hein. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, parce que, évidemment, il y a tellement de belles déclarations sur le fait que quelque chose qui pourrait déjà nous faire penser, pour nous, à la tradition de l'élitisme républicain, les bons, comme Bernard Elner, on pense, hein, comme Machiavel, ceux qui sont capables de... Ils doivent pouvoir émerger. Mais en même temps, il y a la suppression d'un mécanisme important de renouvellement de la notion même de citoyen florentin. Il faut avoir ça en tête. Alors, donc voilà le schéma, le schéma général des volets de sa proposition de réforme, maintien du Grand Conseil comme instance de souveraineté, gonfalonier à vie comme incarnation de la continuité et de la stabilité républicaine, création d'un Sénat sur la base des compétences et non de la seule naissance, donc merito, grado, certes, grado, c'est la place qu'on a du fait de son père et de sa famille, mais le merito, c'est autre chose. Hein. Mais en même temps, cette remarque que je viens de faire sur le sens de la suppression du recrutement par quartier, après l'idée qu'il y a un contrôle croisé entre les différents conseils de la République, une critique de la signorie et une réduction de ses pouvoirs, là aussi, parce que la signorie, c'est aussi cette possibilité, chaque deux mois, que un quart de ses membres soit membre des arti minori. On voit bien que voilà, ça lui plaît modérément, cette affaire. Hein, c'est une des raisons, sûrement, à l'intérieur de la critique de la signorie. Insertion de la possibilité des débats contradictoires dans le Sénat et les conseils restreints. Voilà. Attention, une attention grande portée à la sélection et la formation des gouvernants, et puis distinction entre participation au vote, hein, d'un côté, et participation à l'élaboration et l'élaboration des décisions de l'autre. Voilà. Et puis un dernier point qui là aussi a un sens intéressant pour notre, hein, pour notre phénomène de mise en évidence du processus de professionnalisation, hein, remise en question des diviers. Tu dis, c'est quand même pas normal que parce que un tel de telle famille y était la semaine d'avant, enfin les mois d'avant, quelqu'un d'autre de très bon de sa famille puisse pas y aller. On voit bien, hein, on voit bien le double sens de cette professionnalisation. Hein. Professionnalisation, ça veut dire en même temps écarter ce popolo pazzo, enfin. Il n'y a pas de doute, quoi. Il y a vraiment les deux aspects, quoi. Il y a les deux aspects en permanence. Il ne faudrait pas le lire. Pas le lire de façon unilatérale, quoi. Hein? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce n'est pas uniquement une proposition de réforme d'un oligarque, parce qu'il sait que voilà, ça ne suffit pas d'être issu d'une grande famille, qu'il faut un méritant, et que le méritant, on peut le trouver chez des gens qui viennent pas de là, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui repousse les procédures qui permettent en permanence d'alimenter l'idée même de l'appartenance à la cité, à la citoyenneté, quoi. Il y a cette complication, enfin, c'est difficile de garder les deux en même temps. Je vous dis ça parce que moi-même et Fournel, on a insisté sur l'aspect dans les textes qu'on a écrits, très souvent, on a insisté sur l'aspect, voyez, comme il remet en question le fonctionnement traditionnel des grandes familles. Et je crois que c'est vrai d'insister là-dessus, mais malgré tout, il y a l'autre aspect en même temps, hein, qui fait que des choses de fonctionnement intégré dans le fonctionnement de la République et intégrant gli arti minori dans les instances politiques tend à disparaître avec sa façon de définir un fonctionnement du gouvernement. Non, ouais. Alors, le dernier point, enfin, sur lequel il faut réfléchir, c'est donc le rapport qu'il a avec le gouvernement vénitien. Alors, il n'y a pas de doute qu'il y a une inspiration, hein, une inspiration vénitienne. Il n'y a pas de doute que cette inspiration vénitienne, elle existe à partir de 1494 et qu'on l'a déjà vu à l'œuvre dans les sermons de Savonarole de décembre 1494, hein, et dans lesquels il incitait les Florentins à ne pas hésiter à aller chercher une inspiration pour leur transformation. Pour leur transformation politique chez leurs voisins vénitiens, hein, parce que c'est la seule autre vraie république qui fonctionne. Et on avait noté dès ce moment-là que dès ces sermons de Savonarole, il y avait en effet un regard sur Venise, hein, mais malgré tout, il n'y avait pas application d'un modèle vénitien. Pour une série de raisons évidentes, à savoir que, le fameux Grand Conseil, oui, il y a un Grand Conseil à Venise, mais, comme vous le savez, il est serrato, c'est-à-dire que la liste des familles dans lesquelles, dont les membres font partie du Consiglio Maggiore, est serrato, hein, depuis 1297, hein, et après il faut des procédures très complexes pour pouvoir y être admis. Bon, alors que les citoyens del mezzo, no? Cittadini mediocri, cittadini di mezzo, sont admis au Consiglio Grande Florentin, que Savonarole avait très clairement dit que bon, le Doge, on verrait plus tard, l'équivalent du Doge, on verrait plus tard, et que personne parlait à ce moment-là de l'équivalent florentin d'un Consiglio dei Pregadi, hein, donc le Sénat. Hein. Alors, donc, on voit bien qu'il s'agit en effet d'une pensée qui regarde vers les Vénitiens, mais en aucune façon de l'application d'un modèle vénitien. Alors, Guicciardini se rapproche davantage des fonctionnements de la République de Venise. Hein. Donc il est dans une ligne, hein, dans une lignée qui a commencé, l'intérêt pour le fonctionnement vénitien va pas se démentir pendant toute cette période. Hein. On aura plus tardivement un texte de Donato Giannotti, celle de la Repubblica dei Veneziani, etc. Donc il y a un vrai intérêt sur Venise. Et cet intérêt, il vient que le fait que déjà à ce moment-là se développe quelque chose qu'on appellera par la suite, hein, et je crois qu'on peut en effet le nommer ainsi, un mythe du gouvernement vénitien. Et ce mythe, alors, c'est assez étonnant de le trouver exprimé presque de façon absolue, enfin, dans la bouche de celui dont tout l'effort théorique pendant tout le dialogue a consisté à dire, faut pas juger sur les espèces, faut juger sur les effets, hein, et il l'exprime quand même avec voilà, grande vigueur, è il più bello ed è il migliore governo, non solo dei tempi nostri, ma ancora che forse avessi mai a tempi antichi alcune città. E pourquoi? Justement parce que il est d'une espèce, mais c'est vraiment d'une espèce spécifique, perché partecipa di tutte le spezie dei governi, di uno, di pochi e di molti. Alors, bon. Donc on est pas loin, quoi. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais bon, malgré tout, s'il se laisse aller à formuler quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à una spezie di governo, le plus beau et le meilleur, hein, il sait que voilà, c'est pas comme ça que ça marche, et donc, y compris sa forme de gouvernement inspirée par Venise, eh bien, il va falloir le limer et le corriger. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand on avance un peu dans la discussion, il y a des éléments qui remettent en cause le caractère un peu abrupt de la définition de ce gouvernement comme le plus beau et le meilleur. Hein. C'est intéressant que ce qu'il introduise comme remarque, ce soit une remarque qui vous trouvez dans cette phrase, a me pare che il governo veneziano per una città disarmata sia così bello come forse mai avesse alcuna Repubblica libera. Hein. Et bien que la nuance est sans doute à mettre en lien avec les analyses de Machiavel dans les Discorsi, où Machiavel parle précisément de la faiblesse militaire des Vénitiens. À son avis, quand même, Voilà, le point, hein, le point de faiblesse, c'est le fait qu'ils n'ont pas les armes, qu'ils n'ont pas les armes propres qui sont nécessaires. Hein. Donc, vous vous rappelez sans doute que quand Michael parle de Venise, il explique vraiment ça. C'est-à-dire, tant que Venise s'est contentée de la mer, tant qu'elle n'a pas essayé de devenir une puissance continentale, une puissance en Italie, eh bien, gli ordini de Venise étaient parfaitement appropriés. Hein. Mais que, précisément, ils ne se sont pas contentés de ça. Et que c'est là qu'on a vu, en particulier à la bataille de Vaïla, qu'en une seule bataille, ils ont failli, et ils ont perdu pendant un instant l'ensemble de leur domaine en une terra ferme. Hein. Donc c'est intéressant que ça soit cette remarque sur la cité désarmée qui soit reprise par Guicciardini, pour dire c'est vraiment un très bon gouvernement per una città disarmata. Hein, una città disarmata. Alors, malgré tout, il y a une espèce d'expression, hein, d'expression d'un, comme ça, d'une mythisation vénitienne, hein, qui se dit pratiquement dans les termes avec lesquels les Vénitiens eux-mêmes expriment la force de le gouvernement. Poiché quello governo prese piede, si è mantenuto tante centinaia di anni in una medesima forma e senza mai conoscere sedizione e discordie civili. Et on voit bien que là, on atteint un des points décisifs. L'idée que derrière, à côté du discours de la transformation permanente des choses, du discours du lien avec la condition des temps, du lien avec ce que sont à un moment donné gli umori, qui implique donc un espèce de travail permanent, limare, ricorreggere, correggere, etc., remettre à chaque fois les choses en place, réfléchir, constituer par des procédures permanentes, etc. À côté de ça, qui est incontestablement le sens majeur du texte et de la conception même de la politique de Francesco Guicciardini, à côté de ça, il y a quelque chose qui pourrait se lire comme une espèce d'aspiration à ce que on trouve enfin une forme d'équilibre. Enfin, si on pouvait s'arrêter dans... On sait bien qu'on ne peut pas s'arrêter. Mais de temps en temps, il y a des formulations qui laissent vraiment entendre que ce qu'il aimerait, c'est quand même qu'il y a un peu de calme, quoi. Un peu de... quelque chose qu'on puisse maintenir, hein, sans qu'il y ait les discordes, sans qu'il y ait à remettre sans cesse, à limer sans cesse, à corriger sans cesse, à constituer sans cesse une nouvelle couche dirigeante, etc. Ça serait bien si on pouvait avoir quelque chose qui marche pour des centaines d'années. Hein. Et alors, il y a même à un moment donné dans la discussion, un moment où c'est tout à fait même... Enfin, paradoxal de lire une chose pareille pour quelqu'un qui est aussi attentif, en règle générale, au fonctionnement des choses, au fonctionnement de l'histoire, à l'analyse de l'histoire, à la complexité des processus. Hein. Et ce moment, c'est quand il y a ce dialogue sur la République romaine. Dialogue sur la République romaine, qui a introduit, une fois encore, Papella, Piero Guicciardini, qui, de façon, d'ailleurs, cum grano salis, sûrement, on ne peut pas imaginer que c'est comme ça, qui à un moment arrive et vient défendre, j'ai entendu dire que, etc., il y a des gens qui ont écrit que... Quand même, si Rome marchait si bien, c'est parce que, au fond, c'est grâce à la tension et au tumulte entre patriciens et plébéiens. Évidemment, le quelqu'un, c'est Machiavel dans les discours. Et c'est Piero Guicciardini qui vient, qui dit ça à Bernardo del Nero. Et Bernardo del Nero répond de façon, de façon tout à fait surprenante, qui montre que de temps en temps, il y a ce désir de dire, si on trouvait quelque chose qui marche, et qu'on pourrait être tranquille pendant 100 ans, là, vraiment, ça serait pas mal, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, el modo vero, sarebbe stato. Hein? C'était pas comme ça, c'est dommage. El modo vero sarebbe stato che la città, donc Rome, fosse tutta di un medesimo corpo, e quanto al partecipare del governo non fosse distinzione da patrizi a plebei. Così sarebbero stati uniti e cessavano le cagioni delle ingiurie. Hein? Ingiuria dans le sens vraiment étymologique, hein? Injustice. Né alcuno avrebbe avuto causa di suscitare il popolo a tumulti per aprirsi la via agli onori. Hein? Donc, voilà. Si ça avait été autrement, ça aurait été mieux, quoi. Mais sauf que c'était pas autrement, quoi. Tiens, qu'est-ce que ça aurait été bien si, s'ils avaient été tous d'accord entre eux, hein, s'ils s'étaient aimés, et qu'ils auraient été tous copains, et ça aurait été encore plus génial, quoi. Sauf qu'ils ne pouvaient pas se voir. Ouais. Donc là, vraiment, hein, on a comme si on a un phénomène qui fait que, comme si la pensée, qui est une pensée en mouvement permanent, une pensée de la complexité, à un moment donné se bloque parce que, non, là c'est trop, quoi. Hein. Dire que les discordes, c'est positif dans une cité, là il faut vraiment être Machiavel pour raconter des choses comme ça. Et puis moi, Machiavel, il raconte effectivement des choses comme ça. Il dit, hein, i tumulti intra i nobili e la plebe, eh bien, c'était quelle cose che furono prima causa del tenere libere Roma. C'est des tumultes que sont nées les lois pour la défense de la liberté. Et l'autre dit, putain, il dit pas, il dit, si ça avait été autrement, qu'est-ce que ça aurait été bien? Mais non, mais c'était pas autrement. Hein, c'était pas autrement. Donc voilà, mais bon, alors, c'est pas pour dire que, hein, c'est évidemment pas fréquent sous sa plume, hein, ce souhait que ce souhait d'une Rome qui ne serait plus qui ne serait plus Rome. Hein, et bon, il faut savoir reconnaître les moments où ça coince, quoi, l'argumentation. Hein, là, ça coince. Là, ça coince. Et puis, vous savez bien qu'en gros, il va se servir de ça, il va se servir de cette idée de participare, hein, al governo, à la fois des patrizi et des plebei, il va s'en servir comme un argument à l'intérieur de Florence pour que eux, là, ses interlocuteurs, ceux qui vont faire le gouvernement de Florence d'après 1494, eh bien, ils prennent garde à ne pas laisser les plébéis dans le sens, la plébéi, c'est dans le sens romain, l'équivalent florentin, c'est le popolo, hein, de tout à l'heure. Ne pas le laisser de côté, lui donner, hein, cette instance dans laquelle il peut s'exprimer, qui sera le Grand Conseil. Voilà. Donc, on peut dire, hein, clairement que, voilà, dans ce deuxième livre, hein, appuyé sur, là aussi, des concepts importants, dont certains sont ambigus. Celui de la professionnalisation de la politique, il est ambigu dans son sens sociopolitique. Hein. Il tend à faire place à des gens nouveaux, hein, qui n'ont pas été élevés sotto il mantello dei padri, et en même temps, à donner une place moins grande encore qu'auparavant Aux artes minores, hein, au popolo pazzo, hein, parce qu'il y a incontestablement en même temps cette méfiance-là. Hein. Donc on a ça, on a la question du rapport avec Venise, mais toujours est-il que on a eu dans cette deuxième journée de discussion entre Bernardo et ses interlocuteurs, la mise en place, hein, de réflexions qui définissent un programme global d'ordini, hein, réforme institutionnelle, mais réforme des fonctionnements même, pas seulement des institutions, hein, ordini dans son sens général, dans son sens large. Voilà. On voit bien là que les lectures qui disent « Ah, ce qui est intéressant, c'est que le premier livre, hein, il y en a, y compris chez des gens importants de la critique guichardinienne, comme Vittorio De Caprares ou Félix Gilbert, qui estiment qu'en fait, ce qui est intéressant dans le dialogue de Regimento, c'est que le premier livre, mais on voit bien, là, il y a une unité, hein, une unité des deux moments et une logique, hein, du passage donc de ce qui est le grand discours de la méthode politique et de la réflexion sur gli ordini, sur il modo di ordinare, hein, di sorte che si sentino e frutti della libertà. Hein. Voilà. Donc, On va arrêter là, simplement en réinsistant sur ce, comme ça, le tout que forment les deux livres du dialogue de Regimento, et le fait que c'est un tout et en même temps, voilà, hein, qui fonctionne vraiment. Il y a quelques rares moments où on pourrait dire que quelque chose se fige dans le raisonnement, qui fonctionne vraiment avec un mouvement de discussion, de dialogue, d'intégration des remarques, des, hein, vous voyez bien que on arrive à des formulations beaucoup plus complexes que ce que le début du texte pouvait faire penser. C'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose qui s'appuie sur, voilà, l'analyse des umori della città, des cittadini, l'analyse concrète d'une situation concrète, essentiellement, et qui, à partir de là, dans un dialogue entre les différentes âmes de la cité, hein, les différentes traditions de la cité, permettent d'avancer vers une réflexion qui dépasse comme ça les positions de classe ou les positions de la tradition républicaine, hein, et qui les dépasse par ajustement et approximation successives. Donc c'est assez simple au fond, le point final, c'est de tenir pour bon le fait qu'il s'agit d'un dialogue, hein, et pas d'un traité linéaire. Voilà.